François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po. Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche dernier l'entrée de Missak Manouchian, communiste et figure de la résistance ainsi que de son épouse Mélinée au Panthéon. Alors même si Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, lorsqu'ils décidèrent de panthéoniser de grandes figures, n'est pas exempte d'arrière-pensée personnelle et politique, il opère sans contexte avec le résistant communiste rescapé du génocide des Arméniens, un choix judicieux, porteur de messages forts et salutaire. Alors justement, quelles sont, selon vous, les portées historiques et symboliques de cette entrée de Manouchian au Panthéon ?
Vous avez tout à fait raison, c'est un sujet intéressant et j'ai fait partie de ceux, nombreux historiens et personnalités politiques engagées, à avoir demandé cette entrée de Missak Manouchian au Panthéon, donc j'en suis très heureux. Mais au-delà de Missak Manouchian, on va y revenir, c'est tout un symbole, c'est une partie de la résistance qu'on honore et pas n'importe laquelle, c'est à la fois la résistance communiste, mais la résistance des étrangers qui se sont battus pour la libération de la France. Parce que Missak Manouchian était le responsable d'un groupe de guérilla urbaine qui appartenait au FTP MOI. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les FTP MOI, c'est un mouvement créé par le Parti communiste qui voulait dire franc-tireur et partisan main-d'œuvre immigrée, qui était composé principalement d'étrangers, et parmi eux, évidemment, une très grande majorité de juifs étrangers communistes. Il y avait aussi des brigadistes espagnols, il y avait des antifascistes italiens, et il y avait aussi un certain nombre de communistes français. Donc en honorant Missak Manouchian et en le faisant entrer au Panthéon, on peut dire quelque part que le président de la République donne un clin d'œil politique au Parti communiste, puisque ce sont des héros du Parti communiste clandestin et Parti communiste résistant pendant la guerre, première chose. Deuxièmement, il montre dans une époque où on a tendance à critiquer les étrangers en France et les immigrés en France, que les étrangers et les immigrés, et nous le savons très bien dans le monde juif, ont souvent été des patriotes exemplaires, comme les juifs engagés en 14-18 ou les juifs volontaires. Je vous rappelle qu'il y a plus de 23 000 juifs qui se sont engagés volontaires en 1939. Donc c'est une manière d'honorer ces étrangers patriotes. Et puis il y a le grand poème d'Aragon sur l'affiche rouge où on dit ils étaient 23 étrangers et sont morts pour la France. Alors parlons un peu de ce groupe Manouchian qui est important. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est deux choses. C'est un, l'affiche rouge qui a été affichée sur tous les murs de Paris au moment où ils ont été fusillés le 21 février 1943. Dans ce groupe de 23, ils avaient commis un certain nombre d'attentats. Ils avaient été absolument héroïques, puisqu'ils ont commis pratiquement presque une centaine d'attentats dans Paris. L'attentat le plus connu et le plus exemplaire a été conçu par le numéro 2 de ce groupe Manouchian, qui était Marcel Reimann, qui habitait la rue des immeubles industriels dans le 11e, qui était un jeune juif d'origine polonaise de 21 ans. Et avec son groupe, ils avaient assassiné le général SS Julius Ritter, qui supervisait alors l'exécution du service travail obligatoire, le STO, en France. Et donc, ça a été une action absolument déterminante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la police française, les brigades de surveillance, qu'on appelait, qui les ont arrêtés, mais par contre, ils vont être jugés par un tribunal militaire allemand. 23 vont comparaître. Parmi ces 23, 13 sont juifs, et 22 hommes, une femme. La femme, c'est Olga Bonchik, c'est une juive roumaine, qui, elle, ne sera pas fusillée avec les 22 autres au Mont-Valérien le 21 février, mais elle sera décapitée dans la cour d'une prison le 10 mai 44 à Stuttgart. Parmi ces 23 arrêtés, 13 étaient juifs. J'aimerais dire leur nom parce qu'il faut les rappeler, parce qu'eux aussi vont rentrer au Panthéon avec Missak Manouchian et son épouse Mélinée. Il s'agit de Joseph Boxhoff, de Thomas Leck, de Maurice Fingerschweig, de Jonas Geduldig, d'Emeric Glass, de Léon Goldberg, de Shlama Gritzvass, de Stanislas Kubacki, de Marcel Reimann, de Willy Shapiro, de Wolf Weisbrot et de Robert Witschis. Ils vont tous rentrer au Panthéon et donc c'est une manière de les honorer et j'en suis très heureux.
François Lebrun, quelles sont les autres personnalités françaises, juives, à être entrées au Panthéon ?
Alors il y en a une, on le sait, on s'en rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 1er juillet 2018, c'était Simone Veil. Simone Veil, c'est tout un symbole aussi qui rentre au Panthéon. C'est à la fois une femme héroïque, combattante, résistante, qui a été dans plein de combats, mais c'est aussi, quand moi j'étais présent à cette cérémonie, comme beaucoup des amis des combattants de la mémoire, c'est aussi l'entrée d'une déportée, c'était la première fois qu'une déportée juive, rescapée des camps de la mort, faisait son entrée au Panthéon, et d'ailleurs l'accompagnait avec elle, quelque part, symboliquement, les 75 000 juifs déportés de France. Mais au-delà de ce symbole de la déportation, et c'est évidemment la femme engagée, les combats féministes pour l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi la grande européenne, première présidente du Parlement européen. Mais je ne vais pas m'étendre sur Simone Veil, parce que beaucoup de gens la connaissent et connaissent bien son parcours. Mais il y a deux autres juifs importants qui sont rentrés au Panthéon récemment. Le premier, c'est en 1987, pour le centenaire de sa naissance, qui est René Cassin. René Cassin était né à Bayonne en 1887. Il était le fils d'Azaria Cassin, qui était un descendant de juifs portugais maranes qui ont été établis à Nice, et sa mère est appelée Gabrielle Derépus, elle était d'origine alsacienne. C'était un héros de la Première Guerre mondiale, grièvement blessé, décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Il a été un très grand professeur de droit et un très grand juriste. Mais c'est pas pour ça qu'il est rentré au Panthéon. Il est rentré au Panthéon pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a été un des tout premiers à rejoindre le général de Gaulle. Il rejoint le général de Gaulle le 24 juin 40, et il devient, quelque part, le premier ministre de la justice, le garde des Sceaux de la France libre. C'est lui qui écrit les statuts de la France libre, c'est lui qui négocie avec Churchill et Anthony Eden, c'est lui qui montre l'inconstitutionnalité du régime de Pétain. Puis, pendant la guerre, il est le secrétaire permanent du Conseil de défense nationale, il est commissaire à la justice et à l'éducation, et donc il a une guerre absolument héroïque, il est compagnon de la libération. Après-guerre, il continue ses activités de juriste, il accepte de présider le Conseil d'État, mais à condition qu'il soit épuré de tous les collabos qui composaient le Conseil d'État et qui avaient notamment entériné toutes les lois de spoliation et de persécution des Juifs en France. Et puis ce qui l'a rendu très célèbre, c'est qu'en 1946, il préside la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui aboutit à la Charte universelle des droits de l'homme. Et à ce titre, en 1968, il reçoit le prix Nobel de la paix. Alors, aussi, on l'a connu dans la communauté juive pour d'autres raisons, c'est qu'il a été président pendant très longtemps de l'Alliance israélite universelle. Donc ça, c'est le premier juif important à rentrer en Panthéon. Le deuxième, c'est Jean Zay, qui a été ministre de l'éducation et de la culture sous le Front populaire, qui était né à Orléans d'une famille dont son père était juif originaire de Metz, sa mère était protestante, et il a été un résistant exemplaire, et il a été assassiné par la milice en 1944, et il est rentré au Panthéon en 2014, ainsi que d'autres grands résistants, dont Pierre Brossolette.
Alors, François Lebrun, vous êtes l'auteur d'un très beau roman, « Deux étés 44 », paru aux éditions Stock, dont le fil rouge est justement le Panthéon. Et il serait bon de rappeler ce soir l'origine de ce lieu qui honore celles et ceux qui ont fait l'histoire de France.
Tout à fait, mais je vous remercie pour mon roman « Deux étés 44 ». Oui, j'y raconte en fait une histoire qui est un peu liée à mon histoire familiale. Parce qu'en fait, l'origine du Panthéon, c'est que Louis XV, qui était quasiment mourant à Metz en 1744, sur le point de mourir, il promet que s'il guérit, il construira sur la montagne Sainte-Geneviève la plus haute basilique de France, la basilique Sainte-Geneviève. Et le roi est guéri au dernier moment par le docteur Isaïe Serfoulman, médecin de la communauté juive de Metz, c'est ce que je raconte dans mon roman, qui est par ailleurs mon ancêtre direct à 8 générations. Et ce roi un peu volage va tenir sa promesse et va faire construire cette basilique Sainte-Geneviève. Les travaux commencent en 1758, se terminent en 1790. C'est pas une bonne époque pour terminer la construction d'une basilique, c'est la Révolution française, et cette basilique n'est pas consacrée, ne devient pas une basilique, ça devient, en 1791, le Panthéon des grands hommes, où le premier grand homme qui est accueilli est Mirabeau. Et donc, c'est un clin d'œil de l'histoire par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est que cette basilique est devenue un temple républicain qui honore les grands hommes et les grandes femmes qui ont servi la nation. Et on la doit, en fait, à la guérison quasi miraculeuse du roi Louis XV par un médecin juif, le docteur Ullmann. Et donc, que Missak Manouchian et les 13 membres de son groupe d'origine juive rentrent avec lui au Panthéon, que Jean Zay, René Cassin et Simone Veil y soient aussi. Et puis, comme je le raconte dans mon roman, il y a aussi un grand nombre de juifs qui sont honorés au Panthéon sans que ils y reposent. Ce sont tous les écrivains morts pour la France en 14-18 comme en 39-45. En 14-18, j'ai d'ailleurs l'oncle de ma grand-mère, le capitaine Émile Hayem. Pour 39-45, j'ai un autre oncle de ma grand-mère, Maurice Chergine, qui est honoré. Mais sur ces deux plaques, 14-18 et 39-45, il faut noter la présence de nombreux juifs. En 14-18, donc, il y a Émile Hayem, que j'ai déjà évoqué, mais il y a Léon Israël, Jean Leuve, Adolphe Reynac, Jacques Schnerb, Georges Veil. Et en 39-45, des noms qui parleront peut-être plus à nos auditrices et à nos auditeurs, qui sont honorés comme écrivains morts pour la France. On peut voir leurs noms sur les stèles qui sont à l'intérieur. Il y a Marc Bloch, René Blum, le frère de Léon Blum, Marguerite Aron, Benjamin Crémieux, Valentin Fellman, Benjamin Fondane, Max Jacob, Anatole Levitsky, Georges Mandel, Irène Nemirovsky, Georges Polizère, Maurice Sergine que j'ai évoqué, Jacques Salomon, Boris Vildé et évidemment Jean Zay qui a été le premier ministre de l'éducation mais surtout le premier ministre de la culture et qui a créé, ce qui n'est pas toujours connu, le Festival de Cannes. Donc le Panthéon, qui au départ devait être une basilique pour honorer Sainte-Geneviève, est en fait un temple républicain où reposent de grands personnalités juives, françaises, patriotes, et qui sont honorées à ce titre. Et voilà donc pourquoi regarder le Panthéon d'un autre œil aujourd'hui.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.